Parce que j'avais tellement la boule au ventre, la boule au ventre de la boule au ventre créait à un moment donné que je n'avais plus la force de faire face à des banalités ou des choses qui n'étaient pas des banalités. J'ai eu un accident de la circulation à 10 km/h.
Didier, je vous propose de rester avec nous, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1, parce qu'il est minuit. Donc, on va écouter Malassani avec les informations et on va se reparler dans quelques instants. Donc, la Libre Antenne revient dans un instant. Ne bougez pas, Didier.
Je connais bien, merci.
Au carillon d'Europe 1, on retrouve Maëlle Assani pour le Flash Info. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Sébastien Lecornu va faire des propositions ce vendredi en vue d'un compromis pour éviter une censure après un passage en force inévitable sur le budget. Le gouvernement reconnaît ce jeudi soir qu'une adoption du texte par un vote de l'Assemblée est impossible. Deux options restent sur la table, 49-3 ou les ordonnances. Matignon rejette la responsabilité de cette impasse sur, je cite, le sabotage continu du RN et de LFI. Et après ce passage en force confirmée par l'exécutif, Marine Le Pen accuse les partis du socle commun d'avoir menti. Le gouvernement, en assurant depuis la rentrée que les ordonnances n'étaient pas envisageables, le Parti socialiste en revendiquant une victoire avec l'abandon du 49-3, annoncé par Sébastien Lecornu lors de son discours de politique générale. Et enfin, les Républicains, en assimilant toute hausse d'impôts à une ligne rouge, écrit la chef des députés RN sur X. Présenter l'euthanasie et le suicide assisté comme des actes de soins brouille gravement les repères éthiques. Les mots des évêques de France dans une tribune transmise à la presse ce jeudi soir, à quelques jours de l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie au Sénat. Les soins palliatifs sont l'unique bonne réponse, estiment les signataires qui appellent les parlementaires à mesurer, je cite, la portée anthropologique de leur vote. Le ministre danois des Affaires étrangères réaffirme sa vive opposition à toute prise de contrôle du Groenland par les États-Unis. Hors de question, ce serait contraire à toutes les règles internationales, a-t-il déclaré ce jeudi soir à la télévision. Une opération militaire de dissuasion est menée sur l'île Arctique depuis quelques heures. Des soldats français, allemands, norvégiens, suédois, mais aussi britanniques y participent. Ce déploiement n'a aucun impact sur l'objectif de Donald Trump, estime la porte-parole de la Maison Blanche. Cette même porte-parole assure que toutes les options restent sur la table côté américain concernant la situation en Iran. Donald Trump laisse planer la menace d'une intervention pour faire cesser la répression sanglante des manifestations contre le régime des Mollahs. Mais ce jeudi soir, les pays du Golfe expliquent avoir dissuadé le président américain de passer à l'action. 800 exécutions de manifestants prévues initialement mercredi auraient été suspendues par les autorités iraniennes pour donner des gages aux États-Unis. L'option d'une intervention en Iran s'éloigne et le pétrole perd immédiatement du terrain. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord recule ce jeudi soir de 4,1%, moins 4,5% pour le brut américain qui passe sous la barre des 60 euros le baril. Les cours avaient grimpé de plus de 8% ces derniers jours, au plus fort des tensions dans la région. Éric Zemmour compte bien faire des prochaines élections municipales. Un laboratoire de l'Union des droites, Reconquête, proposera la fusion au second tour aux autres listes de droite dans toutes les villes, même dans celles où le candidat du parti arrivera en tête en mars prochain. Le quatrième homme de la dernière présidentielle confie qu'il ne s'attend pas à voir le RN accepter cette main tendue, mais il garde espoir concernant les Républicains. Et puis l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans semble être parfaitement appliquée en Australie. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi drastique, le mois dernier, les géants de la tech ont bloqué 4,7 millions de comptes appartenant à des mineurs, annonce ce jeudi soir de l'autorité australienne de la sécurité en ligne. Vous écoutez Europe 1, il est minuit 3 et on retrouve Valérie Darmon pour la Libre Antenne jusqu'à 1h.
Merci Malassani, on se dit à demain. Évidemment,
oui,
si vous
vrai.
Voulez bien.
C'est vrai, vous êtes là demain aussi.
Voilà, même heure, même fréquence. Tout pareil,
et
en fait,
bien.
Et même personne.
Oui,
je suis là aussi tout le week-end et Roland entrera lundi.
Voilà, et bien à demain.
À demain, dormez bien.
Merci Valérie, je vous souhaite. Europe 1.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
C'est le numéro de notre standard, numéro non surtaxé, 739-21, précédé du mot nuit, 75 centimes plus coût du SMS. C'est le numéro qui vous permet de nous laisser vos réactions, donc par SMS et puis libre antenne, @europe1.fr. C'est bien sûr notre adresse mail si vous voulez voir aborder certains sujets ou si vous voulez vous aussi témoigner. témoigner. Didier, je vous retrouve. Nous étions en train d'évoquer votre harcèlement au travail. Vous avez basculé du privé à la fonction publique. Et à partir de là, votre vie...
7 ans avant la retraite.
Voilà, 7 ans avant la retraite. Et là, votre vie devient un véritable cauchemar. Parce que non seulement vous êtes harcelé par votre N+1, mais aussi le N+2 et aussi le N+3. Au point d'en arriver...
Structurellement.
Voilà, structurellement, donc c'est tout un système. Voilà. Au point même... que vous avez un accident de voiture sur le chemin du travail, tellement vous êtes en stress, tellement vous y allez la boule au ventre.
Absolument.
C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous n'avez pu vous intégrer. Ils ne vous ont pas laissé la chance de vous intégrer du tout. Ça a commencé tout de suite.
J'étais intégré. J'étais intégré vis-à-vis du fait que j'étais intervenant sur site et que j'avais fait de l'entretien dans des médiathèques, dans des salles de théâtre, dans des bibliothèques, dans plein d'endroits.
Oui, avec les clients, vous étiez intégré, mais pas avec votre hiérarchie.
Oh, superbement, j'étais adoré.
Mais pas avec votre hiérarchie, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça s'est bien passé avec elle ?
Non, ça pouvait pas bien se passer, parce que... l'esprit était zélé, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment l'exprimer. Peut-être parce que ça se passait trop bien avec les clients et que ça faisait peut-être ombrage. Peut-être, je ne sais pas comment l'expliquer. Maintenant, ce sur quoi je veux venir aujourd'hui, qui est très, très, très important, parce que je témoigne aussi pour les autres maintenant, plus que pour moi, quoique, si ça me fait écho, c'est que ça me fait quelque chose et que ça me fait très mal encore aujourd'hui.
Ça laisse des traces, hein, le harcèlement, quel que soit... Bah, alors, quand on est enfant, d'autant plus, mais même adulte.
C'est épouvantable. Les traces que ça laisse, je suis depuis 3 ans à la retraite. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je suis en train de chercher un psy. Donc, vous voyez, et je vais vous en parler un tout petit peu plus tard, si vous me le permettez.
Bien sûr.
Ce que je voulais souligner, c'est que quand on est dans le public, on ne peut pas quitter son poste. Parce qu'on quitte son statut... et on abandonne tout et on perd tout. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir. Et quand vous allez mal, que vous êtes en difficulté, eh bien, vous n'êtes pas en très bonne posture pour vous en aller de quelque part.
Bah oui,
et la fonction publique, vous n'y êtes pas bien, eh bien, vous allez voir ailleurs. Eh bien, c'est stupéfiant, c'est quelque chose que j'ignorais complètement quand j'y suis entré, sinon je n'y serais très probablement jamais entré. Et j'ai de très très fortes pensées pour tous les gens qui sont dans la fonction publique, qui en souffrent et qui ne savent pas comment sortir. Oui. Et moi j'en suis sorti, je vais vous dire comment. En allant voir un psy, en étant catalogué en longue maladie et en bénéficiant, excusez-moi du mot bénéficier parce que ce n'est pas un bénéfice, de 33 mois d'arrêt de travail, ce qui est épouvantable. Il faut l'entendre.
Mais en vérité, vous avez été diagnostiqué en longue maladie parce que vous étiez en train de sombrer dans une dépression, j'imagine, Didier.
Plus qu'une dépression.
Voilà, parce qu'encore aujourd'hui, vous êtes en train de nous en parler et c'est hypersensible alors que vous n'y êtes plus. Donc, quand on y est, hein, quand on est harcelé au travail, c'est quand même extrêmement impactant. Hein. On finit souvent en burn-out, d'ailleurs.
Je peux vous dire, et je ne vous dirai pas, mais je peux raconter chaque matin quel a été mon cauchemar de la nuit d'avant. Ça se répercute y compris sur mes journées et mes nuits. Ça se répercute y compris sur les traitements médicaux. D'ailleurs, j'écoutais Elisabeth, c'est bien Elisabeth tout à l'heure.
Oui, Elisabeth.
Elle avait des médicaments, et je voulais souligner un détail sur ces médicaments. Ça va compléter l'information pour quelques personnes. Parce que les médicaments auxquels elle faisait allusion sont des médicaments qui sont proscrits pour les gens qui sont, pardonnez-moi l'expression, autant le dire, hein, à l'heure qu'il est, pour les gens qui sont... comment je dirais ? Je cherche mes mots, pardon. Mais pour les gens qui... Il voudrait procréer.
Ah, je ne sais pas.
Parce que les médicaments de cette nature sont des gens qui affaiblissent le corps humain dans toute sa splendeur. Ce qui devient, chez une femme comme chez un homme, quelque chose pour lequel je ne vous ferai pas de dessin, ça a un impact qui n'est pas négligeable. Ça va jusque-là. Donc, je ne vais pas pleurer. Mais, non, j'en suis plus là. J'en suis pas là. Mais... c'est quand même l'héritage du poids du traitement, parce que le poids du traitement, c'est l'accumulation du traitement sur des années. J'ai pris quoi, 10, 15 000 comprimés à ce jour, je ne sais pas.
Ah, encore aujourd'hui ? Non, aujourd'hui, vous n'êtes plus sous traitement.
Vous plaisantez ? Vous ne plaisantez pas, je le sais. Mais je me suis retrouvé vulnérable, et dans ma vulnérabilité et mon ignorance, je suis allé voir un psy qui m'a fait un diagnostic en 5-10 minutes. Il m'a dit, mais monsieur, vous avez une grave maladie. Il faut tout de suite signaler à la Sécu, je vous fais un traitement. Et le traitement, aujourd'hui, je n'ai aucune gêne à dire en toute transparence devant les auditeurs que je suis gavé de dépakote, gavé de médicaments de type anti-anxiolytique, etc.
Et le fait de quitter, enfin d'avoir été en arrêt maladie, hein, par obligation, parce qu'ils vous ont poussé, en fait,
oui,
à vous mettre en arrêt maladie, ça n'a pas, petit à petit, puisqu'il était de 33 mois, c'est beaucoup, renouvelable à chaque fois.
Il y a 3 mois de la fin, parce
voilà,
que j'avais 36 mois,
la
Sécu a commencé à m'écrire en me disant, il n'y a plus que 3 mois. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que petit à petit, quand vous avez compris que vous n'alliez plus jamais les revoir, plus jamais y retourner, ça n'a pas allégé vos difficultés ?
Pas véritablement, parce que je me suis accoutumé aux médicaments. Et le médecin m'a dit, votre pathologie, et je n'avais que des raisons de croire mon médecin, puisque je n'avais que lui sur qui je pouvais m'appuyer, médecin que je n'ai plus d'ailleurs depuis quelques jours, ce qui est l'autre question qui va se poser. Et donc, ce médecin m'a dit surtout, je compte sur vous pour surtout être honnête et en aucun cas jouer avec les médicaments en faisant la moindre impasse ou variante sur la prescription. Et donc, je suis parti avec mes médicaments, auxquels s'est rajouté des médicaments pour dormir à cause des réapparitions de cauchemars liées au contexte du travail. Mais j'étais durant des semaines à rêver de travail, alors que je ne suis plus au travail depuis des mois.
Oui, mais parce que vous étiez complètement traumatisé. Hein.
Et en rêver, en négatif, bien entendu. Et donc, à ne pas pouvoir évacuer. Parce qu'en plus, le médecin que je suis allé voir est un médecin qui m'écoutait, mais avec qui je n'avais pas d'échange. Mmh. Par contre, il avait la particularité de me faire comme moindre mal, et je lui tire mon chapeau là-dessus quand même, il m'a maintenu à flot, et il m'a permis de ne pas y retourner. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Et cette partie du problème a au moins été une partie positive du problème dans le contexte de naufrage garanti. Et donc voilà, donc c'est quand même bien particulier parce que je n'ai pas le sentiment que je sois arrivé au bout
de
la solution.
Est-ce que vous avez quand même dénoncé ces méthodes de travail en vous basant sur des faits réels, c'est-à-dire des mails, des messages, etc., etc.
J'ai eu 20, 30, 40 témoignages.
Et donc,
j'ai pris un avocat.
Alors,
l'avocat, il m'a dit, « Oh, mais monsieur, mais il n'y a pas une infraction vous concernant, il y en a deux. » Et je suis passé à ce qu'on appelle le tribunal d'instance. Ça, c'est dans ma deuxième intervention à la libre antenne que j'ai eue après le mois d'octobre, c'est-à-dire 3-4 mois après, parce que en réalité, je vous ai dit, je suis passé en octobre 2020, mais je suis passé peut-être un mois après. Mm-hmm. Et j'ai rencontré un obstacle. J'avais pris un avocat. Bon, ça définira pas d'où je viens exactement. J'avais pris un avocat, parce que c'est pas le même secteur géographique. J'avais pris un avocat de Versailles. Voilà. Par hasard, comme ça, je l'ai trouvé sur Internet, spécialisé dans les conflits dans les environnements publics.
D'accord.
Bon, j'ai dit, mais c'est génial. Donc, il était vraiment spécialisé. Et la spécialisation a tourné au fiasco. Parce qu'en réalité, c'est passé au tribunal d'instance et j'ai été débouté. Et on m'a dit, mais de toute façon, attendez, vous vous plaignez là. Vous avez des témoignages, d'accord. Mais vos témoignages ne justifient pas de pouvoir établir le lien. C'est toujours... Vous pouvez établir le lien entre le traitement que vous avez aujourd'hui et le fait que vous êtes prétendument maltraité dans le cadre du travail. Vous pouvez très exactement... En fait, c'était à moi de prouver que en supposant que votre médecin soit en supposant que votre médecin ait les compétences requises par rapport au diagnostic prétendument fait, truc, machin. C'est-à-dire qu'on mettait même en doute dans l'échange la validité des propos, des teneurs, des messages, de trucs, de machin.
Et Didier, est-ce que cette entreprise, elle avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour harcèlement? Parce que très souvent, c'est le cas quand il y a de ce
Alors,
type de problématique.
Cette entreprise a une particularité, c'est qu'elle n'en avait pas fait. Elle n'en avait pas fait l'objet. C'est une collectivité, je précise bien. On parle du public, on est bien d'accord.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que vous m'avez dit entreprise.
Oui. Valérie,
mais
je pensais que c'était. Oui, oui, d'accord.
C'est une collectivité. Mm-hmm. Et à ma grande surprise, il y a quelques semaines, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit « Oh, tu connais pas la dernière ? Le responsable de tel service a deux plaintes contre lui. »
Et c'était votre responsable.
Pour des faits de ceci, de cela, etc.
Et c'est le même responsable que le vôtre ?
Non, c'était un autre.
D'accord.
Mais, comment on dit, le père est dans le fruit. Le problème existait, c'était pour des relations, je dirais, à caractère... On dira que ça touche au MeToo, quoi. On dira comme ça.
Ah oui, quand même. D'accord.
Oui, et donc, lui n'a pas été licencié, il n'a pas été puni. C'était un responsable assez haut, quand même. Hein. Il n'a pas été licencié, il n'a pas été puni, il n'a pas été... On l'a simplement changé d'endroit. Bon, il avait... Il était assez original, ce personnage. C'était un personnage qui... C'est une brève parenthèse que je m'autorise à faire. C'était un personnage qui était dans un service. Si je dis service, évidemment, ça crée tout de suite un service où il avait le pouvoir du recrutement, quelque part. Voilà. Donc, ça donne la teneur du service.
Oui, d'accord. Donc, promotion...
Et il ne recrutait que des femmes.
Oui.
Il travaillait avec 9 femmes. Elles étaient toutes avec des caractéristiques... semblables,
oui.
Qui étaient des caractéristiques de personnes volontaires, ayant besoin de travailler, enfin vous me direz c'est la caractéristique d'un peu tout le monde, mais des caractéristiques charnières, des personnes à caractère à profil malléable.
Oui, oui, bien sûr, bah, de toute façon. Voilà,
donc comme ça je l'ai appris après coup.
Bon. Oui.
Mais ce n'était pas mon sujet et ce n'était pas... mon problème, même s'il m'avait dit un jour, ce personnage, « Oh, dis donc, t'as perdu beaucoup de poids, tu dois avoir du succès, tout, etc. etc. » Bon, il avait quand même l'esprit au niveau de la ceinture quand même assez facilement, quoi. Mais c'est pas pour ça que je vous appelle, c'est parce que là, je m'exprime avec un peu plus d'aisance, c'est pas ce dont je vous aurais parlé il y a 5 ans. Hein.
Oui.
Et donc voilà, donc effectivement, ce fait n'est pas un fait isolé. Je crois qu'il y a de l'abus, il y a des abus, et l'environnement, cet environnement non privé, maintenant moi je suis un usager du service public, je ne vais pas critiquer le service public dans toute sa splendeur, parce qu'il y aurait quelques, j'allais dire des maladresses.
Oui, il n'est pas question de faire des généralités. En tout cas, vous, dans votre...
Je ne peux pas faire des généralités.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Allons après.
Oui. Mais
là n'est pas mon propos, surtout pas.
Oui. Mais vous, dans votre parcours, en tous les cas, vous avez constaté qu'une fois qu'on y rentre, on ne sait pas comment en sortir, à part en démissionnant.
Je connais 2 personnes qui veulent en sortir, qui n'y arrivent pas. J'en ai croisé 2 en 2 jours. J'en avais une en pleurs ce soir au téléphone. Elle a pris un congé sabbatique durant 4 ans. Et elle est en train de nous écouter en ce moment. Et durant 4 ans, elle vit de quoi ? Elle vit de petites missions intérimaires, en étant sortie d'un poste prestigieux, avec un uniforme, pour représenter la ville de là où elle travaille. Et comble du comble, elle ne peut pas en sortir, ça fait 4 ans, et elle a droit à 5 ans de congés répétitifs, année par année, reconductibles. Et elle ne sait pas comment en sortir. Et j'en ai une autre personne que je connais, ce sont 2 femmes. Contrairement à moi, qui bon, et donc, mais il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, mais on ne sait jamais, je ne sais pas tout. Et puis, je ne fais pas d'allusion non plus à des sujets qui ne sont pas. Et c'est aussi ça qui me fait témoigner, parce que les gens que je vois autour de moi, ça crée écho à ma situation. Et ça fait remonter ma situation à la surface. Et je me dis, mais aujourd'hui, je suis en mesure de parler de choses qui sont des choses qui sont étouffées, qui sont des choses dont les victimes, dont les personnes ciblées, dont les personnes impactées ne peuvent pas parler. Il leur reste 5 ans, 10 ans, 15 ans à travailler, et si elles disent quoi que ce soit, si elles font quoi que ce soit, elles sont inscrites à l'encre rouge dans leur dossier, et leur dossier, moi j'ai travaillé dans le privé, Valérie, je n'étais pas content d'un employeur, je m'en vais, je vais chez un autre,
Bien sûr, on efface
le tableau, comme qui dirait, on repart avec une page blanche. Dans le fonctionnariat, en règle générale, qu'il soit collectivité ou qu'il soit national ou autre, ou hospitalier, vous passez d'un régime à l'autre ou d'un endroit à l'autre,
oui,
votre
et
dossier
le dossier
vous
suit. Oui, oui, bien sûr, le dossier
et
suit.
Et le contenu, surtout. On est bien d'accord sur le dossier.
Vous, dans votre, dans votre malheur, Didier, vous avez eu de la chance, c'est-à-dire que vous n'étiez pas trop loin de la retraite.
Mais justement,
on pense à toutes les personnes qui en sont bien loin. Comment font-elles? Oui.
Je peux vous dire, c'est atroce. Pour ces personnes, le mot me vient tout de suite à la bouche. Le quotidien est atroce. Il n'est pas qualifiable. Et je pense même que pour ces personnes, elles doivent sentir qu'elles sont prisonnières de leur travail, prisonnières de leur statut. Elles sont comme elles seraient, entre guillemets, je vais mettre des guillemets pour la bonne formule, elles sont comme elles seraient dans une secte. Et je ne vois pas la différence. J'y mets des guillemets pour la bonne forme et le bon respect du langage par rapport au respect du statut public. Mais pour moi, je ne vois pas de différence. Elles sont dans un cadre qu'elles ne peuvent pas quitter. D'ailleurs, comment faire pour sortir? Les gens ne peuvent pas en sortir.
On a Sophie au 739-21, Didier, qui écrit, donc 75 centimes plus coût du SMS, qui nous dit « Je crois entendre mon histoire, je suis fonctionnaire également, harcelée par mon supérieur. 3 ans de dépression, aujourd'hui je suis retraitée, je comprends ce monsieur. J'ai vécu la même expérience, 3 ans d'arrêt de travail suivi d'une mise en invalidité par la CPAM jusqu'à ma retraite. Ça fait 6 ans que je suis sous antidépresseur. »
Ouais. J'ai eu cette proposition, madame Valérie. Pardonnez-moi, c'est mon éducation qui me fait dire madame.
Oui.
Valérie, j'ai eu cette proposition et je corrobore complètement le message que vous venez de recevoir. J'ai eu cette proposition qui m'a été faite par la Sécurité sociale à 2 reprises de me mettre en invalidité. Et j'ai eu peur de cette proposition car j'étais dans le déni. Et parce que je croyais... J'avais une particularité, que je croyais que c'était moi qui était le mauvais élément. Je croyais que c'était moi qui n'étais pas conforme à ce qu'on attendait de moi. Je croyais que tout le monde vantait le service et l'environnement public autour de moi. Et je n'en avais que des échos favorables, alors que moi j'en avais un constat détestable. Et je me suis mis...
Ah oui, vous avez porté la culpabilité, la responsabilité.
Oui, complètement. Et comme j'ai porté la culpabilité, la responsabilité et la cause et tout ce qui s'ensuit sur moi, je n'aurais pas pu à l'époque vous en parler comme aujourd'hui, puisque j'étais coupable de ce qui m'arrivait.
Vous étiez au cœur de la tourmente, surtout. Hein. On a Bernadette au 739-21 qui nous dit que le harcèlement moral, elle nous donne les critères. Hein. C'est humiliation au travail, critique quotidienne, agressivité constante.
Oui, mais de toute façon, vous verriez, je suis en train de détruire les papiers en ce moment progressivement, mais je n'arrive pas à faire une page blanche. Hein. Quand je détruis mes papiers, je vais vous dire ce qui se passe. C'est que j'en garde encore, 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 je continue à garder des témoignages dont je n'arrive pas à me séparer tellement j'y tiens, etc. Je n'arrive pas à faire la place nette de ce que j'ai traversé.
Mais vous êtes toujours suivi par un psychothérapeute, Didier.
Alors oui et non, et je souhaite vous en parler, c'est la deuxième moitié, il faut que je fasse très vite. Vous m'avez dit que j'étais pas très loin de la retraite, c'était ma chance.
Oui.
Eh bien, je vais vous dire, c'était à la fois ma chance et mon malheur. J'aurais été à 10 ans de la retraite, je claquais la porte.
Ah, vous auriez démissionné.
Ah oui, complètement. J'aurais démissionné, j'aurais été planté des salades, j'aurais été faire n'importe quel travail, j'aurais été faire balayeur, il n'y a pas de sous-métier. J'aurais sauvé ma peau, sauvé, préservé ma santé, sans rechigner. Je venais du privé, je retournais dans le privé. Mais j'étais trop près de la retraite et j'avais un défaut supplémentaire qui était une circonstance pure, le plus pur des hasards, je n'avais jamais travaillé aussi près de chez moi. Ce qui, de surcroît, était ce que je ressentais comme un avantage particulier et personnel.
Bah, bien sûr. Oui, c'est quand
c'était
même un confort
de travailler près de chez soi.
Bien sûr, c'est un confort.
À 5 minutes de chez soi.
Bah, oui, oui.
Et ça, ça a joué aussi. Et quand on travaille trop près de chez soi, eh bien, ça freine la remise en question. C'est ce que j'ai découvert. Alors maintenant, je suis toujours suivi. Je suis toujours suivi. Mais en même temps, la personne qui me suit ne me fait que des renouvellements d'ordonnances. Et je commence à sentir le poids des médicaments. Et je commence à sentir l'avachissement.
Donc en fait, c'est le psychiatre. Hein, vous êtes suivi par un psychiatre.
Oui, mais seulement voilà, c'est que il ne m'a fait que des prescriptions. De toute façon, je n'avais pas le choix pour avoir l'arrêt de travail de 33 mois et les renouvellements, je ne pouvais pas passer par un autre itinéraire. Donc, je l'ai à la fois choisi et il m'a été simultanément, en termes de statut professionnel, imposé.
Alors après, de toute façon, le psychiatre, c'était la case obligée. Mais en parallèle, vous n'avez pas suivi une psychothérapie pour mettre du sens sur tout ce qui s'est passé, travailler les traumas ?
Rien du tout, personne ne m'a rien dit.
Et vous n'en avez pas éprouvé le besoin d'aller raconter encore ? Et puis, après, il y a plein d'outils pour travailler tout ça.
Dites-moi, Valérie, qu'est-ce que je fais ce soir ?
Oui, bien sûr.
Non, mais vous n'êtes pas la bonne personne pour que j'ai un suivi particulier. J'en conviens, c'est pas ça que je voulais sous-entendre. Parce que vous avez bien autre chose à faire dans la vie.
Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, ça fait du bien de parler. Hein. Moi, je suis une grande militante de la verbalisation. Voilà. Mais travailler en psychothérapie, ce harcèlement qui vous a fait, qui vous a mis dans l'obligation de vous arrêter pendant 33 mois, maintenant vous êtes à la retraite, c'est du traumatisme. Donc ça veut dire c'est pour ça que je vous parle de ça. Bon, moi dans la vie, je suis praticienne EMDR en hypnose ericksonienne, en PNL, voilà. Donc là, moi par exemple, évidemment que je vous suggère d'aller voir un praticien en EMDR, un psychologue qui a cet outil à disposition.
Alors justement, j'ai tapé psychologue sur internet, j'ai tapé ma ville ou les villes environnantes. Et puis, j'ai une liste de psychologues qui sont sortis. J'en ai pris un au hasard. Je l'ai appelé tout à l'heure parce que je ne savais pas par quel bout prendre. C'est pour vous dire à la manière dont on peut être démuni quand on ne connaît pas ce dont on veut parler ou ce sur quoi on veut agir. Je me retrouve au téléphone avec une personne qui me dit « Oui, vous téléphonez pourquoi ?» Bon, ben, on n'a qu'à prendre un rendez-vous. On n'a même pas pu, à un moment donné, je ne savais même pas, cette personne avait été fort sympathique, elle me dit « Mais attendez, je suis déjà depuis 6 minutes avec vous au téléphone, et puis je vous ai pris entre deux rendez-vous, donc il faut qu'on fasse vite, on se cale quoi comme horaire, comme jour ?»
Mais est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle pratiquait quand même, cette personne ?
Ben non.
Bien sûr qu'on ne peut pas rester très longtemps entre chaque patient. Comment vous l'avez trouvé ? Sur les pages jaunes ?
Oui, bien sûr.
Ah oui.
Alors, je lui ai laissé entendre, en toute sincérité, je vous dis, je lui ai laissé entendre que je réfléchissais, que j'avais à rappeler. Parce que j'étais dans l'expectative, j'étais complètement scotché comme d'autres personnes à l'occasion doivent l'être.
Oui, Alors, vous êtes, avec un peu de chance, vous allez tomber sur quelqu'un de très bien, et ça peut complètement arriver, et vous allez faire un très beau travail psychothérapeutique. Maintenant, si vous pouvez passer par des relations, bien sûr que les psys ne vont pas prendre quelqu'un qu'ils connaissent, de la proximité de la personne. Hein, si c'est votre cousin ou votre sœur
je suis un peu délocalisé, donc ça risque pas.
Voilà, mais par contre, vous pouvez demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un de bien ? Vous pouvez demander à votre médecin traitant. Parfois, même les psychiatres donnent les contacts.
Ce qui est assez comique, si on pourrait dire comique, parce qu'il faut quand même en sourire, parce qu'il ne faut pas s'appesantir sur ces misères. J'ai découvert sur Internet qu'il y avait la thérapie cognitive, EMDR, interpersonnelle, systémique, etc.
Ouais, bien sûr.
Et puis moi, je me dis, mais c'est pas la question que je vous pose, Valérie. Mais je me dis, mais moi, parmi les descriptions qui sont faites dans Internet, laquelle il me faut, je suis dans l'expectative la plus complète. est dans l'interrogation la plus totale. Et on me dit, ah ben, faut faire une évaluation pour savoir. Voilà.
Oui, non, bien sûr que non. Mais
Et donc, je tourne en boucle, en fait.
Oui. En tout cas, ce qui me paraît important, et d'ailleurs le psychiatre qui ne vous voyait que pour la prescription aurait pu vous le suggérer, c'est de faire un travail psychothérapeutique. Donc soit vous le faites avec une psychothérapeute, en face à face, en conversationnel, et puis vous en avez pour quelques années, voilà. Soit vous choisissez. Bon, moi là dans votre cas, je pense pas que quelqu'un qui est un freudien, une analyse ou une psychanalyse pourrait vous aider. Plutôt une psychothérapie avec quelqu'un qui échange avec vous. Et si en plus il peut y avoir des outils qui permettent la thérapie brève comme le MDR ou peut-être selon l'hypnose par exemple ou effectivement la PNL par exemple, c'est pas plus mal, voyez. Donc
oui,
moi je crois qu'un psychothérapeute qui pratique le MDR pourrait tout à fait vous convenir, parce qu'on sent bien qu'il y a des accroches chez vous qui sont traumatiques. Donc ça pourrait très bien fonctionner et vous n'allez pas. Bon, après ça c'est aussi peut-être l'arbre qui cache la forêt, Didier. Hein, il y a peut-être une d'autres.
Oui, parce voilà. C'est peut-être l'arbre qui. Oui, c'est peut-être ça aussi, hein, parce que là j'ai la capacité de l'échange là, mais je l'ai pas toujours. Hein.
Voilà, donc c'est important d'aller visiter aussi ce pourquoi c'est arrivé. Donc, on va aller chercher, évidemment, dans le passé, certaines choses. Donc, moi, je vous conseillerais une psychothérapeute ou un psychothérapeute qui pratique, par exemple, le MDR. Bon, les auditeurs d'Europe 1 le savent, moi, je suis fan de cet outil. Mais l'hypnose, ça marche très bien aussi. La PNL, ça marche très bien aussi. Les TCC, ça marche très bien aussi. La Gestalt, ça marche très bien aussi. Bon, voilà, dans votre cas, la systémie, ça sert strictement à rien. Donc, vous pouvez oublier. Mais par contre, tout ce qui est psychothérapie, même en conversationnel, va vous aider.
Tout à fait. Parce que moi, avec un psychiatre, je n'échange pas. Hein.
Bah non, puis de toute façon, il n'a pas le temps. Et en plus, visiblement, vous êtes en province, donc on sait très bien que les psychiatres sont les parents pauvres de la médecine d'aujourd'hui, et qu'il y a très peu de psychiatres, et qu'en général, ce sont des prescripteurs. Alors parfois, là aussi...
Il prescrit, moi ça me fait des années qu'il prescrit. Du 500 mg, j'ai aucune gêne à le dire, du 500 mg en dépakote, etc. Mmh. Et puis, eh ben, j'ai l'impression que ça fait un effet cumul. Il m'a classifié dans la catégorie assimilée ou équivalent bipolaire sur la base d'une conversation de 10 minutes. Mm-hmm. Parce que j'ai entendu parler d'évaluation tout à l'heure. Est-ce qu'en 5 ou 10 minutes, est-ce que vous auriez le sentiment que on peut, en 5-10 minutes, on ne critiquera pas l'intervenant qui m'a beaucoup aidé. Attention, c'est pas ça la question. Mais il y a évaluation, il y a diagnostic et diagnostic. Hein. Et voir quelqu'un une poignée de minutes et puis dire bon, tout de suite. Bon, c'est vrai que
Non, mais Didier, très souvent, de toute façon, les psychiatres travaillent. C'est mon cas d'ailleurs, avec des psychothérapeutes. Très, très souvent, parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter pendant une heure quelqu'un, ils n'ont pas le temps de traiter en profondeur, vous voyez.
Si j'avais de l'humour, je vous dirais enchanté de le savoir au bout de X années.
Mais il n'est pas trop tard. Hein.
Non, mais je sais qu'il n'est pas trop tard, puisque j'ai même fait le pari, ce qui n'est pas un pari, mais qui est un objectif, et je le dis pour les auditeurs, je le dis. Mmh. En fait, il y a énormément de choses dont je parle qui ne sont pas pour moi, mais pour les gens qui nous écoutent. J'insiste beaucoup là-dessus. Je veux me séparer de mon psychiatre aujourd'hui pour avoir mes prescriptions, si elles sont toujours nécessaires, via mon généraliste pour les prolonger. Et je veux aller vers du psychologue pour l'évacuation des reliquats, et qui sont nombreux et lourds, qu'il faut évacuer. Voilà vers quoi je veux aller.
Ça me paraît tout à fait juste, hein, ce que vous proposez. Enfin, là.
Moi, je raisonne, je n'ai eu de conseil de personne, j'essaye d'y mettre deux bouts de logique par rapport à un ressenti.
Après, Didier, je pense qu'il faut vous entretenir avec votre psychiatre aussi du désir d'arrêter les séances avec lui. De toute façon, vous le voyez une fois par mois, quelque chose comme ça.
Ah ben, il est très proche de la... Je le vois beaucoup moins maintenant. Là, je le vois tous les 6 mois maintenant, tous les 4 mois.
Oui, voilà. Entretenez-vous avec lui en lui disant voilà ce que je veux mettre en place. Moi, je suis sûre qu'il va aller dans votre sens. Hein. Et d'ailleurs, regardez, Sophie, qui a vécu la même chose que vous, au 739-21, nous dit qu'elle a suivi une psychothérapie pendant 4 ans et que ça l'a beaucoup aidée. Donc vous voyez, de toutes les manières, vous ne pourrez pas faire cette économie. Alors autant démarrer maintenant.
Mais je ne vois plus en quoi le psychiatre m'aide.
Ben avec le traitement médicamenteux, voilà, tout simplement.
Alors, mon généraliste m'a dit, mais si traitement stable à prescrire, il y a...
Oui, il peut le faire aussi,
le traitement
bien
stable,
sûr.
On peut le renouveler sans que vous passiez par systématiquement un psychiatre.
Bien sûr. Après, c'est bien de vous entretenir avec le psychiatre une dernière fois pour évoquer ce sujet avec lui. De toute façon, il est proche de la retraite de toutes les manières. Alors, il va pas.
Alors déjà, il prend plus de patients.
Voilà,
et là, je
exactement.
Lui ai laissé un message, il m'a pas rappelé. Et donc, il rappelle difficilement les quelques patients. Sinon, il m'a dit qu'il allait me mettre entre les mains d'un jeune confrère, dynamique et fringant.
Bon, et puis peut-être que celui-là, il travaille autrement aussi.
Alors, dynamique. Il ne faut pas qu'il soit trop dynamique. Quant à fringant, je ne sais pas si c'est un plus. Je lui ai répondu un peu comme ça, parce que j'ai le langage assez facile, comme vous le sentez.
Mais après, vous allez vous faire confiance, de toute façon. Hein. C'est comme avec tous les praticiens.
La base,
la base, c'est l'alliance thérapeutique. Même avec la psychothérapeute que vous allez trouver, vous allez vite savoir si ça peut le faire ou si ça ne peut pas le faire. S'il n'y a pas d'alliance, le travail ne se fera pas, de toutes les manières. Donc, vous allez rester en référence interne et puis vous allez sentir. Et de son côté, elle va sentir également. Et d'ailleurs, on se réserve quelques séances où on dit « je poursuis ou je ne poursuis pas ». Et inversement.
Alors, j'ai découvert une chose, c'est que j'avais droit à 12 séances.
Oui, comme tout le monde, gratuites.
Alors, il y a 8 ou 12.
Mm-hmm.
8 séances, c'est en règle générale, et 12 séances seraient réservées, soi-disant. C'est une recherche personnelle que j'ai faite, et j'en fais part à la Libre Antenne. J'abuse un peu de votre antenne. Hein. 12 séances, c'est pour les gens qui sont dans certaines catégories, dont les gens qui sont classés longue maladie.
Donc, vous pouvez en bénéficier. Alors, c'est souvent au CMP que ça se passe. Et pour bénéficier de ces 12 séances ou de ces 8 séances, parfois, c'est difficile d'obtenir des rendez-vous réguliers. Parce que les places sont prises, vous voyez ?
Bien sûr.
Mais tentez-le, Didier. Mais moi, je pense que là, avec ce que vous nous avez relaté ce soir, moi, je pense que c'est bien que vous trouviez votre psychothérapeute et que vous commenciez une psychothérapie qui va durer le temps que ça durera. De toute façon, c'est le plus beau des voyages, le voyage vers soi.
De toute façon, je sens que c'est une nécessité parce que je commence à saturer. Je n'ai pas encore, à ce jour, un rejet des médicaments. Mais je commence à saturer parce que je sens le poids des médicaments, déjà d'une part. J'aimerais et je rêve un jour d'alléger le poids des médicaments parce que ça me pèse psychologiquement et ça me pèse sur les épaules. Mmh. Ça me pèse de différentes manières. J'en suis fatigué.
Non, et puis il est temps d'alléger aussi toute la charge qui est en lien avec cet événement. Ça fait maintenant presque...
Et puis les somnifères, oui. Qui se sont ajoutés.
Oui, et puis surtout, ça fait quand même maintenant combien d'années que ça s'est passé ? 3 ans, 4 ans ?
Alors moi, je suis arrêté depuis la mi-mars 2020.
Voilà, donc...
Et je suis à la retraite depuis le 1er janvier 2023.
Voilà, donc vous voyez, maintenant ça y est, il est temps d'aller travailler ce qui s'est passé, parce que vous n'allez pas rester coincé dans cette étape. Vous n'avez que 63 ans, Didier, là, on y va. Ça
Alors,
y est, là, maintenant, on y va.
Je n'ai que 63 ans, c'est bien ce qui me surprend quand je me vois dans la glace par moment, ou quand je vois mon comportement, mon attitude, que vous ne ressentez pas au téléphone. Là, quand on parle ensemble, j'ai des coups de fatigue par moment qui sont faramineux.
Oui, mais ça y est, là, je pense que là, maintenant, c'est le moment d'aller voir. Voilà, d'aller le travailler une fois par semaine, une séance fixe, avec la psychothérapeute que vous allez trouver, ou le psychothérapeute d'ailleurs, et puis ça y est, on y va là maintenant. On ne peut pas rester coincé indéfiniment.
Oui, alors vous avez dit là ou le, effectivement, il y a 90%. J'ai évalué ça comme ça, moi. Il y a 90% d'âme. Mais Me semble-t-il, mais moi, que ce soit un homme ou une dame, moi, ça me pose pas. Ça m'est complètement équivalent. Il y a une chose pour laquelle vous n'avez pas eu de réaction sur la libre antenne. À ma connaissance, vous en auriez parlé. C'est que visiblement, effectivement, il n'y a rien qui va à l'encontre de ce que je décrivais tout à l'heure, ce que je pense aux autres quand même. Il n'y a rien qui va à l'encontre d'une chose, c'est de dire que quand on est dans le secteur public, en sortir, c'est pas une mince affaire. Et y a pas, vous n'avez pas eu la réaction de la moindre personne qui vous dit il y a un itinéraire ou un itinéraire bis.
Non, pas du tout.
Non, mais on ne sait jamais, des fois.
J'aurais lu le SMS, mais là, on ne l'a pas. Oui, on a bien entendu votre message ce soir, Didier.
Ce message, considérez qu'il est exprimé comme un message de ma part, mais c'est un cri.
Oui, j'entends bien.
C'est un cri.
C'est une forte injustice et que vous êtes senti complètement impuissant. Maintenant, ce qui est important, c'est de regarder devant et d'aller travailler tout ça, parce que vous n'allez pas rester coincé dans l'événement qui a eu lieu en 2020 indéfiniment. Donc maintenant, il s'agit de vous mettre en route pour vous maintenant. Il me semble que c'est primordial. Et je vous propose de nous rappeler pour nous donner de vos nouvelles, Didier, puisque vous connaissez le chemin de la libre antenne.
Je me permettrai effectivement, parce que je suis resté dans une expectative et une indécision depuis un sacré bout de temps. Est-ce qu'il existe, vous allez me dire que oui, mais c'est banal, des conventionnés, non conventionnés, secteur 1, secteur 2, secteur 3, enfin, est-ce que ça a un impact, ce genre de choses ?
Un impact sur quoi ? Sur le travail fait ?
Oui.
Ben non, ils peuvent être aussi bons que d'autres qui ne sont pas remboursés. Et aussi mauvais.
Oui, non, mais je pose la question.
Voilà,
parce que moi, je ne sais pas.
C'est vraiment
tout.
Une question. Vous savez, la psychothérapie, c'est une question de rencontre.
D'accord.
Voilà, c'est une question de rencontre. Vous pouvez aller voir des gens qui ont pignon sur rue, qui sont bardés de diplômes, et ça ne va pas du tout le faire. Et vous allez payer vos séances à un prix exorbitant. Et vous allez trouver une psychothérapeute installée près de chez vous qui ne fait pas de bruit et qui est beaucoup moins chère et qui va être meilleure. Donc c'est une question de rencontre et de référence interne. Soyez bien référence. Mais non, il ne faut pas en essayer non plus 12 000, hein, parce qu'après ça devient de l'errance.
En cherchant, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient très spécialisés dans la petite enfance, d'autres dans les groupes.
Bien sûr, évidemment. Évidemment.
Alors de ce point de vue-là, il y a des tas de spécialisations. Là où c'est plus difficile, c'est est-ce que je vais voir quelqu'un, mais vous m'avez répondu à la question, EMDR, vous m'avez répondu à la question, et surtout pas le systémique ou le système.
Systémique, ce n'est pas utile dans votre cas, du tout.
Voilà. Et donc, je crois avoir fait à peu près le tour, sauf si, et pourquoi pas, vous auriez une éventuelle question complémentaire, parce qu'effectivement, le sujet est lourd, quoi. Voilà.
Pour ma part, c'est OK, et surtout qu'on a des appels au standard, Didier. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt.
De m'avoir consacré autant de temps, parce que vraiment, pour ceux qui écoutent, c'est vraiment quelque chose de formidable que de pouvoir savoir qu'ils ne sont pas seuls à être dans cette situation.
Exactement, et c'est le principe de la libre antenne d'Europe 1. Un grand merci, Didier, un grand merci à vous. Prenez soin de vous.
Un immense merci, Valérie.
Et je vous dis à bientôt. À bientôt,
au revoir. Merci. Immense merci, au revoir.
Au revoir.
Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain vacille et chancelle. Comment en sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Combien faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. Beau cadran, les heures s'habillent à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et mon monde pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombons pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu, comme l'eau au lacrymogène. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain?
Moi, ce que je préfère dans Stéphane Escher, Poussière d'or, c'est dans le ciel bleu. Voilà, on a tellement besoin de ciel bleu sur l'antenne d'Europe 1. D'ailleurs, nous, on baigne dans le bleu, en fait, pour tout vous dire, chers amis, puisque le studio est bercé d'une lumière bleue fort agréable. Et vous savez que maintenant, vous pouvez nous voir, d'ailleurs, parce que nous sommes filmés pendant la libre antenne d'Europe 1. Alors, je ne connais plus exactement les canaux, mais vous pouvez nous trouver, je crois, sur le canal de SFR, d'Orange, etc. Donc, n'hésitez pas et vous verrez à quel point ce studio baigne de lumière bleue, comme dans cette chanson de Stéphane Escher, Poussière d'or. Et puis notez, chers amis, aussi que tous les jours, de 7h à 9h, vous pouvez retrouver toute l'équipe d'Europe 1 Matin. Dimitri Pavlenko, bien sûr, Anissa Haddadi, Olivier Delagarde, Sonia Mabrouk, Vincent Hervouette et toutes les signatures d'Europe 1. Vincent Trémollet de Villers, Laurent Tessier, Catherine Ney et l'ensemble de la rédaction. Europe 1 Matin, c'est de 7h à 9h, tous les jours, sur Europe 1. Europe 1, bien sûr, la radio libre. Et j'en profite aussi pour prendre quelques minutes pour vous remercier encore d'être aussi nombreux à nous suivre sur Europe 1 et d'être de plus en plus nombreux surtout à être présents à nos côtés, parce que sans vous, nous ne sommes rien. C'est vous qui faites cette antenne, c'est vous qui faites notre radio et c'est vous qui faites particulièrement la libre antenne. Ça vaut bien un deuxième petit cadeau. Eh bien, ce sera Lenny Kravitz, I Belong to You. C'est pour vous tous. My heart, you light my way in the dark. You are the Lenny Kravitz, ce soir dans votre libre antenne sur Europe 1, I belong to you. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Valérie.
Je suis ravie de vous entendre, comment allez-vous?
Ben écoutez, pas très bien ce soir.
Ah, que se passe-t-il Gaëtan?
Oui. Eh ben parce que jusqu'à présent j'avais un ami avec qui je m'entendais très bien, dont je vous avais parlé.
Oui.
Et ben malheureusement, il a décidé d'arrêter notre amitié par simple message, alors qu'on était hier soir tranquillement en train de boire un verre, et j'ai beaucoup de chagrin.
Qu'est-ce qu'il vous a écrit dans le message, Gaëtan ?
Eh ben, il m'a écrit que j'étais trop envahissant, que je lui ai envoyé trop de messages pour lui demander qu'on se voit et tout, et qu'il voulait arrêter. Il m'a enlevé directement de ses amis sur Instagram, sur Snapchat et tout.
Ah, il vous a bloqué carrément?
Oui, carrément bloqué. Il a envoyé aux personnes que je côtoyais aussi et que lui aussi côtoyait de faire pareil, de me bloquer.
Ah, il a demandé aux autres de vous bloquer également?
Oui, aux autres que je voyais, oui, c'est ça.
Ah oui, donc là, c'est vraiment pas cool, parce qu'à la limite que ça se passe entre lui et vous, bon, on peut comprendre, mais ce qui aurait été mieux, c'est que quand même, il vous l'exprime en face à face, plutôt que de vulgairement par un texto.
Oui, j'aurais préféré.
Mais oui, mais qu'ensuite, il entraîne les autres dans le même scénario, ça, c'est vraiment pas gentil. Est-ce que vous pouvez quand même, vous avez aucun moyen de les contacter les uns et les autres, là, Gaëtan ?
Non, les uns et les autres, j'avais que les réseaux sociaux et je suis bloqué.
Et il n'y a pas les mails, vous n'avez pas de mail ?
Non, j'ai pas de mail, non.
Et pas de numéro de téléphone par ailleurs ? C'est que sur des messages Instagram
oui,
ou des choses
ça,
comme
ben,
ça ?
Oui, que à part lui, j'ai que son numéro, mais il m'a dit de plus le contacter.
Et hier, ça s'est passé comment? Puisque hier, vous étiez
hier, on discutait normalement, oui. On était allé boire un verre. Et puis après, il est rentré chez lui, je suis rentré chez moi. Et là, il m'a dit ça tout à l'heure.
Et dites-moi, Gaëtan, est-ce qu'il avait déjà essayé de vous le dire avant, cet ami?
Il avait déjà essayé de me le dire, j'ai fait des efforts, mais c'est venu comme ça, parce que je lui ai juste demandé aujourd'hui de poster une annonce, parce que s'il pouvait partager un truc sur son Instagram, et c'est parti de là.
D'accord, il a trouvé que c'était trop, c'est ça ?
Oui, il a trouvé que c'était trop, oui. Et pourtant, j'essaie de faire des efforts.
Oui. C'est-à-dire, alors, dans les efforts. Bon,
je lui ai envoyé moins de messages. J'ai essayé de moins le contacter, mais visiblement, ça n'a pas suffi.
Oui. Parce que, bon, vous êtes passé la semaine dernière dans l'émission, Gaëtan, sur le trouble du spectre autistique. Oui. Et les messages, le nombre de messages que vous envoyez avant les efforts et le nombre de messages que vous avez envoyés avec les efforts, c'est combien de messages ?
Avant les efforts, c'était à peu près 8-9 par jour. Et puis après, là, c'était 1-2 par jour.
Ah oui, donc c'était vraiment correct.
Oui, c'était vraiment correct. Et je lui demandais avant de lui poser une question si je pouvais lui poser, s'il n'était pas embêté.
D'accord.
Si je ne l'embêtais pas.
Oui. Et puis il sait comment vous fonctionnez. Vous lui aviez expliqué vous fonctionnez.
Oui, ça, il le sait très bien, oui.
Et lui, ça ne lui posait pas de problème ?
Non. Il ne m'a jamais dit que ça lui posait de problème. Il ne m'a jamais dit. On avait même prévu de faire des activités après, en avril et tout, de faire une randonnée, parce qu'il aime bien la randonnée, mais visiblement, ça ne se fera pas.
Oui. Alors, vous savez, c'est simple. Quand c'est vraiment une amitié, quand il y a vraiment un lien qui est tissé entre deux personnes, y compris dans l'amitié, le lien va se transformer.
Oui.
Ça va trouver une autre forme. Donc le lien ne va pas se casser, se couper. Maintenant, si le lien se coupe, c'est que vous n'aurez pas perdu un ami. C'est que ce n'était pas un ami, Gaëtan.
Oui, c'est ce que je me dis, parce qu'à chaque fois, quand on allait au bar ou quoi, ou même manger un bout quelque part, c'était moi qui payais tout. Et lui, il n'a jamais rien payé.
Oui, alors ça, ce n'est pas forcément signe d'amitié ou pas de signe d'amitié. Après, vous n'étiez pas...
Oui.
Alors, si vous payiez tout et que lui ne souhaitait pas partager avec vous,
oui.
C'est que vous achetiez son amitié. Ce n'est pas pareil.
Alors peut-être oui. À chaque fois, quand il me disait viens, on se voit, il me proposait jamais dans la rue ou quoi. Il me proposait à chaque fois que dans des lieux payants.
Oui, d'accord. Bon, après c'est peut-être parce que c'est plus sympa d'être dans un bar, dans un café, posé, que d'être dans la rue. Voyez.
Oui.
Après, vous vous êtes senti obligé de payer à chaque fois pour lui?
Oui, parce que sinon, après, il refusait qu'on se voit.
Oui, donc vous voyez, en fait, c'était comme une aumône. Il vous accordait du temps, mais ce n'était pas un choix de sa part. Et vous, comme vous êtes sans doute assez seul, il y avait une forme de... Alors, j'aime pas tellement ce terme, mais je vais quand même l'utiliser ce soir, de mendicité, vous voyez. Vous quémandiez de l'affection. Vous achetiez son amitié.
Oui.
Et donc, ce n'est pas de l'amitié, Gaëtan.
Oui.
Donc, ce soir, j'entends que vous avez du chagrin et que ça vous brise le cœur. Parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein, surempathique et hyper affectif. Mais là, ce n'est pas juste pour vous d'éprouver cela, dans le sens où ce n'était pas de l'amitié.
Oui, mais c'est ce que j'essaie de me dire malgré tout, malgré que ça aille pas, j'essaie de me dire ça parce que il faisait pas d'efforts et à chaque fois quand on partageait un moment, il restait à chaque fois sur son téléphone ou quoi, il essayait à chaque fois de vite partir, de vite mettre fin au moment.
Oui, donc vous voyez, il y avait pas de partage. Donc ne pleurez pas sur une absence de partage, Gaëtan, vous faites du mal en fait.
Ouais,
je sais que c'est difficile de rentrer en lien. C'est vraiment difficile. Mais là, en revanche, si vous vous faites du mal en pleurant une histoire qui n'est pas celle qui n'est pas dans la réalité, parce que c'était une illusion, vous vous privez, comment vous dire, vous rajoutez de la difficulté sur de la difficulté, de la blessure sur de la blessure.
Oui, c'est ça, c'est pas le cas. Moi, j'ai envie d'avancer.
Voilà, et ça vaut pas le coup. Là, vraiment, Gaëtan, ça vaut pas le coup.
D'accord.
D'accord.
Bien. Je vais. Oh, oui.
Hein,
je vais
parce que vous voyez.
Autre chose, oui.
Voilà, parce que vous voyez, vous achetiez son amitié, vous achetiez du temps passé avec lui, mais lui, à aucun moment, n'est dans le partage. Donc, en fait, vous ne vous privez de rien en le laissant partir.
Exactement. D'accord, bah, je vais penser à autre chose et avancer vers de nouveaux projets.
Voilà, exactement. Et faites-vous confiance. Vous trouverez des gens qui auront envie de rester et qui vous choisiront. C'est ça l'important. Oui. C'est d'être choisi.
C'est ça. Oui. Merci beaucoup,
Valérie. Je vous embrasse, Gaëtan. Je vous embrasse.
Moi aussi.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Ainsi s'achève votre libre antenne de ce jeudi soir. Moi, je vous retrouve demain pour le vendredi, samedi, dimanche, dès 22h30 jusqu'à 1h du matin.